Bonjour et bienvenue sur la dernière radio libre de francophonie. Aujourd'hui, numéro un peu spécial, un épisode matinal pour une émission dominicale. Vous nous aviez suivis sur les routes du judaïsme avec Shabbat Shalom. Aujourd'hui, je vous propose de retourner en Terre Sainte, marcher sur les pas d'un homme qui a tout bouleversé. Il est plus célèbre que Madonna et les Beatles. Il ne voulait pas abolir la Torah mais l'accomplir. Et pourtant, son enseignement a mis une fin définitive au culte israélite, à la fois prophète, messager et fils de Dieu. Depuis 2000 ans, on ne compte plus les récits, sculptures, poésies, tapisseries, peintures, films, mais surtout chansons. S'il y a bien un sujet incontournable de l'histoire de la musique, c'est sans aucun doute Jésus de Nazareth. Au menu d'aujourd'hui, la vie de Jésus donc, comment il est arrivé, comment il est reparti, ses amis, apôtres et martyrs, sans oublier Judas, Barabbas, Ponce Pilate et la Samaritaine, en passant par un sermon sur la montagne qui n'a rien à envier à Woodstock, tout ça sur fond de musique gospel qu'il n'a jamais cessé d'inspirer. Je vous propose donc de suivre un chemin de croix qui nous mène directement au Golgotha. Remontons un tout petit peu le temps pour partir en arrière de 2000 ans, dans l'un des coins les plus dingues de la planète, la Judée-Samarie, en province romaine de Palestine. Notre voyage commence dans la province romaine de Palestine, au 1er siècle de notre ère. L'Empire romain tient d'une main de fer la région. Vous savez, on est ici à la frontière orientale, loin de Rome et de l'Empereur. Ici, la loi de César peine à se faire respecter. Et pour cause, dans cette région vit un peuple rétif, le peuple juif. Car j'aime autant de vous dire que les juifs, c'est autre chose que les Gaulois. Leur mode de vie, leur religion, leur conception du monde est aux antipodes de la civilisation romaine. Concrètement, vous aviez à l'époque une caste de prêtres, les Sadducéens, qui géraient les affaires du temple et de la justice. C'était l'aristocratie du peuple juif, les garants des sacrifices, des fêtes, de la Torah, bref, c'était les représentants de Dieu devant tous les juifs. Ils s'étaient plus ou moins accoquinés avec le pouvoir romain, ce qui ne plaisait pas aux petites gens, les pharisiens, qui étaient eux plus hostiles à Rome. Les pharisiens étaient très attachés à leurs rabbins locaux, bien plus qu'au temple de Jérusalem. Ils professent que la loi de Moïse, la Torah, devait être lue à l'aune d'une interprétation orale, secrète, et qui deviendra plus tard le Talmud, mais ce qui différencie le peuple de l'aristocratie, les pharisiens des sadducéens, c'est que, pour les pharisiens, l'âme serait immortelle. Il faut le dire, cette idée commença à faire son chemin dans l'esprit du peuple, les actions de ce monde seraient comptées dans le monde à venir. Cette idée, absente de la Torah, ne plaisait pas à l'aristocratie, alors qu'elle avait un grand retentissement populaire. Il y avait aussi de nombreux juifs, ni sadducéens, ni pharisiens, qu'on appelle les juifs hellénisés, des juifs très influencés par la Grèce, qui étaient plus concernés par les choses matérielles de ce monde, plus rationnels, peu portés sur les mystères. En quelque sorte, c'est une espèce de bourgeoisie que les nouvelles routes de l'Empire avaient fait grossir. À côté de tout ce beau monde, d'autres sectes commençaient à voir le jour, notamment les Esséniens, des juifs qui vivaient dans le désert, des gens dégoûtés par la modernité de l'Empire. Ils préféraient vivre en ascète, loin de l'effervescence de ce monde en changement. Enfin, vous aviez les zélotes, des juifs partis faire le djihad contre Rome, des résistants qui s'en allaient dans les rues de Jérusalem, surinés, incendiés, cassés, bref, terrorisés la population pour décrédibiliser la Pax Romana. Parmi eux, pour l'anecdote, un certain Judas. Les zélotes étaient détestés de tous, et pourtant, c'était à peu près les seuls à combattre par les armes l'envahisseur romain. Raison pour laquelle Rome mettait d'ailleurs le paquet pour les arrêter. Il n'était pas rare, parfois, de trouver des allées entières de gens crucifiés le long des routes de Jérusalem, histoire de bien rappeler qui c'était le chef. Vous l'avez compris, mais la Palestine du 1er siècle, c'est le bordel. Des gens perdus, un pouvoir religieux qui peine à imposer son autorité, un envahisseur agressif, des communautés qui ne vivaient plus côte à côte, mais face à face. Et dans cette époque de grands troubles, il y eut comme un renouveau spirituel. On voyait plein de miracles se produire, des malades qu'on soignait, des morts qu'on ressuscitait, sans oublier les types qui vous annonçaient la fin du monde, des prédicateurs, des sectes, des prophètes. À l'époque, il y en avait plein. Parmi ces prédicateurs, l'histoire a d'ailleurs retenu le nom d'un juif, Jean, un Essénien vivant dans le désert, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Sur son dos, il ne portait que des vêtements faits en poil de chameau. Jean annonçait la fin du monde, l'arrivée d'un sauveur, le Messie, Machiach, celui qui allait racheter toutes les fautes, apporter la paix, et pour préparer sa venue, il valait mieux rejoindre Jean et se faire baptiser dans les eaux du Jourdain. Un jour, l'un des nombreux prophètes de Palestine vint le voir et pour Jean, ce fut comme une commotion. Dès que Jean a vu cet homme, il se serait écrié « Tu viens à moi, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Car Jean avait reconnu dans cet homme le visage du Sauveur. Cet homme, qui impressionne tellement Jean, vous savez qui c'est, il répond du nom de Jésus de Nazareth. Et la rencontre de Jean et de Jésus, c'est un peu Lennon qui rencontre McCartney. Jésus, c'était un prophète itinérant, les évangiles qui racontent son histoire sont écrits comme des road movies, représentant un Jésus qui marche de Jérusalem au lac de Tibériade, en passant par la Judée, la Samarie, la Galilée. Il se posait quelque part, réalisait des miracles, puis repartait, suivi d'une cohorte d'hommes et de femmes agités par le charisme du jeune homme. Le dénommé Jésus s'était déjà fait connaître parce qu'il venait du nord, de Galilée, une zone sinistrée, et il avait déjà prêché dans les environs de Nazareth, mais surtout en Samarie. Or, la Samarie était une région pauvre, triste. On est ici dans une région reculée, loin de Jérusalem, loin de Rome, de la Grèce, loin de tout. La Wallonie, avec des oliviers et du fromage de chèvre. Les habitants de la Samarie, les Samaritains, sont méprisés. On les considère comme des cassos, comme les Galiléens d'ailleurs, à la différence que les Samaritains ont une religion un peu différente que les Juifs, ce qui veut dire qu'en plus d'être des pauvres, ils étaient hérétiques. Dans la hiérarchie sémite, le Samaritain était juste au-dessus du lépreux, c'est-à-dire pas grand-chose. On les considère comme des impurs, hors de question de leur adresser la parole, pas même de les toucher. Un jour, Jésus marche seul sur les routes de Samarie, il fait chaud, il a soif, il s'assied sur les bords d'un puits et demande de l'eau à une Samaritaine. La Samaritaine reconnaît que Jésus est juif, elle lui dit alors « Comment oses-tu, toi, un juif, tu me demandes à boire ?» Jésus répond « Si tu savais le don de Dieu qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé de l'eau à Dieu et il t'aurait donné de l'eau vive. » La discussion est lunaire. Jésus devine que la Samaritaine ne s'est jamais mariée, c'était d'ailleurs la maîtresse d'un homme déjà pris. Il lui annonce qu'elle aura 5 maris dans le monde à venir, que le temps de Jérusalem est venu à sa fin. Il parle d'une source d'eau pour la vie éternelle. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. La Samaritaine reconnaît que cet homme est le Messie. Elle lui demande alors « Donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir me fatiguer ici pour puiser dans ce puits. » Jésus répond par cette phrase qui allait tout changer « L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Adorer le Père en esprit et en vérité. Il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. Pour la première fois, un homme proclame qu'il faut adorer Dieu non plus à partir de rituels qui seraient propres à un peuple, mais en esprit, c'est-à-dire en notre fort intérieur. En esprit, mais aussi en vérité, c'est-à-dire que ce Dieu n'est pas caché ou secret, il est offert à tous, et ce, sans condition. Le Dieu que Jésus annonce à la Samaritaine, mais aussi aux Juifs, à Jean, c'est un Dieu qu'elle pouvait trouver au fond d'elle-même. Un Dieu donné à tous, peu importe l'origine raciale ou sociale, une vision individuelle de la spiritualité, mais qui ne se coupe pas de la dimension communautaire, puisqu'elle s'accompagne d'une morale tournée vers l'autre, peu importe son identité. Que vous soyez lépreux, samaritain ou fils de l'empereur, le commandement de Dieu était d'offrir de l'eau à quiconque se présentait devant vous. Personne n'avait jamais parlé comme ça. La Samaritaine fut tellement impressionnée qu'elle courut jusqu'à son village, criant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait, n'est-ce pas là le Messie ? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Si on ne sait toujours pas aujourd'hui où était le Gondor quand l'Ouestfold est tombé, je peux cependant vous dire que le jour où Rome fit incendier le temple de Jérusalem, la Samarie était en première ligne pour annoncer ce qu'elle avait entendu de cet homme, Jésus de Nazareth. Ce qui nous mène à la face A de cet épisode, et qui de mieux que Sam Cooke pour interpréter cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine dans un style doo-wop pré-soul des 60s, avec « Jesus gave me water »,« Jésus m'a donné de l'eau » et « Rendez-vous compte, cette eau ne venait pas du puits. »
Oh, Jesus gave me water. Jesus gave me water. Jesus gave me water. I wanna let his praises swell. Jesus gave me water. Jesus. Jesus gave me water. Jesus gave me water. And it was not
in the well.
Well, there was a woman from Samaria came to the well to get some water. There she met a stranger who did a story tell. That a woman dropped a pitcher. She drank and was made richer from the water he gave her. And it was not in the well. Yes, gave her water. Jesus gave her water. Jesus gave her water. I wanna let his praise swell. Jesus gave her water. He gave that woman water. Gave a living, loving, lasting water. And it was not in the well. Well, on that woman he had pity. She ran back to the city, crying glory, hallelujah, and did his wonders tell. She left my Savior singing. She came back to him bringing the town seed of water, Lord, and it was not in the well. Yes, gave her water. Jesus gave her water. Jesus gave her water. I want to let his praise swell. Jesus gave that woman water. Gave her that loving, lasting water. Water, and it was not in the well. Well, Lord, that woman left for shouting. There was no room for doubting that she had met a Savior who did her wonders tell. Every time she doubted him, she started to think about him, the man that gave her that water, Lord, and it was not in the well. Yes, gave her water. Jesus gave her water. Jesus gave her water. I wanna let his praise swell. Tell you he gave that woman water. Gave her that loving, lasting water. Water, 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 loving water. And it was not in the well.
Jésus, c'était quand même quelqu'un. On dit de lui qu'il serait né d'une vierge, qu'il descendrait du roi David, mais ça, c'est du storytelling. À la base, c'était un type qui rendait la vue aux aveugles, avec de la salive qu'il crachait dans ses mains, faisait marcher les invalides en claquant des doigts. Il était aussi connu pour libérer les fous de leurs démons et guérir les lépreux par la parole. Bref, un marabout typique de l'époque, jusque-là, rien de neuf. Mais bien plus qu'un faiseur de miracles, il était le guide d'une nouvelle philosophie, qui allait bouleverser l'ordre des choses à jamais. Parce que son enseignement, je l'ai dit, était véritablement révolutionnaire. Jésus est un peu l'homme par qui le scandale arrive. Juste après s'être fait baptiser par Jean, il se rend au temple de Jérusalem. Il y voit des marchands faire commerce, vendant des bœufs, des colombes, des petits souvenirs et de quoi échanger sa monnaie. Il frappe les vendeurs avec un fouet, fait tomber tous les étalages, puis s'écrie « Ceci est la maison de mon père, et vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les Sadducéens sortent du temple pour demander quel était tout ce bazar. Détruisez ce sanctuaire et moi, en 3 jours, je le relèverai. Bon, d'accord, mais s'attaquer à la fois à l'aristocratie juive et aux marchands du temple, c'en était trop. Jésus devient l'ennemi public numéro 1, autant détesté par les élites qu'adoré par le peuple. Il doit se cacher, parfois dans le désert ou sur le mont des Oliviers, quand ce n'était tout simplement pas chez des gens qu'il avait soigné ou ressuscité. Suite à cette série d'événements, le temple met la tête de Jésus à prix. Ils rêvaient tous de l'arrêter pour le faire lapider. Plusieurs fois, ils avaient même essayé, mais la foule s'était mise en travers pour le protéger. Déjà qu'il soignait les gens le jour de Shabbat, alors qu'il était de tradition que même si votre enfant tombait dans le fond d'un puits, le jour de Shabbat, vous ne pouviez lui venir en aide qu'à la fin de ce jour. Jésus qui dit « Lève-toi et marche le jour de Shabbat », vous comprenez bien que pour les élites juives, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout même. Et il ne se fera pas vraiment d'amis non plus chez les Romains. Plus tard, quand on lui demande s'il faut payer l'impôt de l'Empire, il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». En d'autres mots, débarrassez-vous des richesses matérielles, donnez-leur tout ce que vous avez, ils seront bien vernis, car même complètement démunis, ils n'auront jamais votre âme. Rappelant à tous que son message était supérieur à la politique, à l'économie, supérieur aux basses choses de ce monde. Ce qui la foutait mal devant les autorités romaines. Détesté par les élites, détesté par l'Empire, il ne s'arrête pas en si bon chemin. Jésus avait fait venir les gens de toute la Judée sur une montagne dans ce qui pourrait s'apparenter au premier grand festival de l'humanité. Et le monde s'était rassemblé pour écouter son discours. Dans cet événement majeur, il a proclamé beaucoup de phrases encore célèbres aujourd'hui. notamment heureux les affligés, les simples d'esprit, les doux, les affamés et les assoiffés, heureux ceux qui pardonnent, les cœurs purs, les persécutés, les artisans de la paix, soyez dans la joie, car votre récompense sera grande dans le royaume des cieux. C'est aussi dans ce fameux discours sur la montagne qu'il proclame le Notre Père, une prière répétée encore aujourd'hui par tous les chrétiens du monde, et ce, depuis 2000 ans. Un discours qui se termine par cette règle d'or, « Ne résiste pas à celui qui te veut du mal, on t'a appris à aimer ton prochain et à haïr tes ennemis, moi je te dis, aime ton ennemi, fais du bien à ceux qui te haïssent, donne à celui qui te demande. » Et si on lui demandait « Qu'est-ce qu'il faut faire, Jésus, pour être sauvé ?» le bougre vous répondait alors « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. » Encore une fois, personne au monde n'avait jamais parlé comme ça. Mais c'est surtout quand il a commencé à dire qu'il était le Fils de Dieu que là, il dépassa définitivement les bornes, message révolutionnaire d'accord, mais Fils de Dieu, vraiment ? Jésus avait une doctrine en phase avec la loi de nature, d'une simplicité radicale, fondée sur la charité, le sacrifice, l'abandon de soi, peu importe votre statut, une économie qui brisait la chaîne de violence et de domination. Ce n'était donc plus un messie envoyé de Dieu, mais Dieu lui-même qui parlait en lui. Ainsi, non content d'être un agitateur politique, Jésus devenait un ennemi de la religion, pour les juifs, un ennemi de Dieu. En tout cas, les tensions ne se calment pas et au fur et à mesure de sa cavale, le discours de Jésus va comme se radicaliser. Il devient plus sombre, comme si il avait compris qu'il ne pouvait imposer son message qu'en s'offrant en sacrifice. Il se mit donc à prophétiser sa propre mort. « Je serai livré aux prêtres et aux scribes. Ils me condamneront à mort et me livreront pour qu'on se moque de moi. Ils me flagelleront et me crucifieront. Mais le troisième jour, je reviendrai. » Et il fut pris au mot. Le temple finira par mettre le grappin dessus, vous connaissez l'histoire. L'un de ses apôtres, Judas, attiré par l'argent, le trahit. Jésus est livré au temple, puis aux autorités romaines. Ponce Pilate, le gouverneur de Judée, responsable de l'empereur, avait pour coutume de faire un geste pour la Pâque juive en graciant un condamné à mort. Dans les prisons de Jérusalem, il voit donc Jésus et Barabbas. Barabbas était un zélote, terroriste contre Rome, criminel multirécidiviste. Pilate demande à la foule « Vous préférez que je libère Jésus ou Barabbas ?» Et la foule répondait « On veut libérer Barabbas. » « Bon, d'accord, dit Pilate, mais vous êtes sûr, Jésus n'a tué personne. Non, Barabbas !» réclame la foule. Alors il en sera ainsi, Jésus sera exécuté, le peuple en avait décidé ainsi. La démocratie, quand elle devient folle, empoisonne Socrate et libère Barabbas. Je ne voudrais pas vous spoiler, mais la suite vous la connaissez. Il finit planté sur une croix, humilié, insulté de tous, devant sa mère, ses amis, couvert de sang, agonisant pendant des heures. Les évangiles ont le sens du drame. Ce qui est sûr, c'est que la mort de Jésus constitue une singularité dans l'histoire des religions. Jamais aucune religion n'avait basé son dogme sur un Dieu qui mourait de manière si misérable. Et comme il l'avait promis, 3 jours plus tard, il reviendra d'entre les morts pour annoncer qu'il reviendra définitivement à la fin des temps. Jésus est mort, vive Jésus donc. Sans lui, son Église, sa communauté universelle devra vivre au risque que soient oubliées les vérités qu'il avait proclamées sur la condition humaine. Pour les chrétiens, le message est clair. Dieu s'est donné lui-même en sacrifice. Il s'est offert aux hommes pour que jamais plus il ne faille répéter ce message. Ce qui nous mène à la face B de notre épisode, un gospel de 1966, plutôt méconnu, de Shirley Caesar, ça ne s'invente pas, qui hurle littéralement sa foi dans la chanson « Roll On ». Paraphrasant Jésus de Nazareth qui dit un jour à ses apôtres « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église » et pour ça j'en paierai le prix de ma vie, alors bon sang, n'oublie pas ce message et fais-la rouler cette église. Let the church roll on.
Let the church roll on. Let the church roll on. Jesus told you everything will be all right.
Il y aurait encore beaucoup à raconter sur le christianisme, mais il est venu le temps de la conclusion avec cette question: mais qu'est-ce qui fit le succès de cette religion? Eh bien, je pense son réalisme. Pour les miracles, on ne peut y laisser que le bénéfice du doute. Par contre, sur ce que Jésus a dit, sans nul doute, de nombreux témoignages se recoupent. Il est difficile de le concevoir, mais il y a davantage de manuscrits attestant de la vie de Jésus que de Socrate ou de Bouddha. Même Muhammad est moins documenté que Jésus de Nazareth. On connaît mieux la vie de Jésus que la guerre des Gaules. Par des récits qu'on appelle évangiles, par des actes, des lettres de chrétiens, de juifs, de grecs, même les Romains ont écrit sur celui qui se targuait être le Fils de Dieu. Et c'est sans doute ce qui explique le succès de cette religion, une logique simple, une iconographie compréhensible de tous, un réalisme qui ne colle pas avec les autres mythologies de l'Antiquité, un Dieu avec un visage véritablement humain. Comment ne pas s'identifier à ces personnages, à leur humanité, à l'image des larmes versées par Marie lorsqu'elle voit son fils se tordre de douleur sur la croix, comme Pierre qui renia son meilleur ami par peur de la disgrâce, comme la femme adultère, insultée, humiliée et qu'on voulait lapider, comme la Samaritaine qui aimait un homme dont le cœur lui était fermé, comme Judas, accablé par le remords et qui se suicide de désespoir. Tous ces gens qui voulaient être sauvés mais qui ne pouvaient jamais s'empêcher de fauter. La religion de Jésus, c'est la religion des ratés, des égarés, des femmes et des hommes fêlés par l'âpreté de la vie, un culte pour les bracassés du sort, ceux pour qui personne ne parierait un copec. Et c'est pour cette raison aussi que des chrétiens sont allés jusqu'à la mort pour suivre leur sauveur, non dans un but de conquête, jamais dans la violence, simplement pour témoigner des paroles qu'ils avaient entendues. Parce que d'une certaine manière, elles proclamaient la vérité. Notre Samaritaine, par exemple, ira jusque Carthage pour annoncer cette bonne nouvelle. Elle est arrêtée par l'Empire, violée par des soldats romains qui lui crèvent les yeux, arrachent les seins avant de l'écorcher vive. Jusqu'à son dernier souffle, la Samaritaine n'avait jamais renié la source d'eau vive que Jésus lui avait apportée, se rappelant qu'un jour, il lui avait dit « On vous livrera au tourment, vous fera mourir et vous serez haïs de tous à cause de moi. Si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Et la Samaritaine n'était pas seule. Tous les apôtres de Jésus, de près ou de loin, ont subi une fin atroce. On peut citer Pierre, qu'on a crucifié, la tête en bas, à Rome. André, crucifié aussi, mais à l'endroit, en Grèce. Jacques, décapité à Jérusalem. Simon, découpé à la scie, quelque part en Géorgie. Barthélemy, flagellé, écorché vif, crucifié puis décapité en Arménie. Joli combo. Thomas, transpercé sur une idole en Inde. Matthieu, suriné en Éthiopie. Étienne, lapidé. Polycarpe, brûlé vif. J'en passais des meilleurs, ça fait quand même un paquet de monde. Sans oublier les femmes, évidemment, la Samaritaine, mais aussi Agnès de Rome, qu'on brûlera sur un bûcher, et comme elle ne prenait pas, alors ils ont dû la finir au couteau. Philomène, encore à Rome, qu'on avait criblé de flèches avant, elle aussi, de la décapiter. Catherine, suppliciée sur la roue en Égypte. Barbara, torturée à mort pour se faire trancher la gorge par son père en Turquie. Ou encore Blandine, jetée au lion, à Lyon. Alors ça, dans l'Antiquité, ils étaient créatifs, y a pas à dire. Le dénominateur commun de tous ces gens, c'est qu'ils défendaient le règne des saints règnes. Bref, derrière ces messages de paix et d'espérance, il y a beaucoup de violence, les douleurs, les injustices de la vie, et c'est pour ça que le rituel principal de cette religion, c'est de boire du sang et manger de la chair. Car le message du Christ, c'est un message qui parle au corps, à l'image du sacrifice de Jésus, de ses apôtres, une parole qui saisit quelque chose qui convient à tous les hommes, qu'ils soient juifs, romains, saxons, germains, slaves ou japonais. Enfin, ça est le travail acharné de Paul de Tars, saint Paul, mais ça c'est une autre histoire pour un autre épisode, et c'est d'ailleurs pour moi le temps de vous laisser avec, sans aucun doute, le meilleur groupe de gospel, les Staple Singers et leur Let's Get Together. Si tu écoutes bien la chanson que je chante, tu comprendras que dans tes mains tremblantes, tu as les clés de l'amour et de la peur. Il n'y en a cependant qu'une qui ouvre toutes les portes, alors rassemblez-vous et nom de Dieu, aimez-vous les uns les autres. Let's get together and love. Merci de votre écoute, à très bientôt, Shabbat Shalom dominical à tous.
Love is but a song we sing and fears the way we die. You can make a mountain ring, obey the angels cry.
Cry, cry, cry.
No. je suis libre. When the one who's left us here returns.